La grâce et la paix nous sont données ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus le Christ, notre frère. Aujourd'hui, nous écouterons le texte de la Passion de Jésus dans l'Évangile de Marc. Nous avons commencé de lire le début hier soir au temple du foyer de l'âme. Dominique Hernandez nous donnera une bénédiction tout à l'heure. Nous accueillons Raphaël et Maxence pour les lectures, mais aussi le chœur de l'oratoire et Sarah Kim pour la musique. Prions. Ô Dieu, de quel nom pourrions-nous t'invoquer ? Tu dépasses tout nom. Quelle louange pourrait être digne de toi ? Aucun mot humain ne peut bien parler de toi. Tu es au-delà de ce que nous pouvons voir et entendre, au-delà de ce que nous pouvons comprendre et croire, au-delà de ce que nous pouvons dire et chanter. Tu es pour nous Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En lui, tu t'es approché de nous. En lui, tu t'es caché pour te faire connaître. En lui, tu t'es abaissé pour nous élever vers toi. En lui, tu as pris notre mort pour nous donner ta vie. Avec lui, tu nous donnes l'Esprit Saint, pour que nos intelligences limitées s'ouvrent à ta lumière, pour que nos cœurs hésitants croient à ton amour, pour que nos voix balbutiantes osent t'appeler, pour que nos vies décevantes portent ta présence. Toi, le très haut et le très proche, nous croyons en toi et nous te louons à cause de Jésus le Christ, ton Fils, dans la confiante audace que nous donne ton Esprit. Amen.
Ils arrivent au lieu nommé Gethsémani, et il dit à ses disciples :
Asseyez-vous ici pendant que je prierai.
Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença alors à éprouver l'effroi et l'angoisse. Il leur dit :
Je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez.
S'étant avancé un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il l'était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait :
Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux.
Il vient et les trouve endormis. Il dit alors à Pierre :
Simon, tu dors ? Tu n'as pas été capable de veiller une heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible.
Il s'éloigna encore et pria en répétant les mêmes paroles. Puis, il revint et les trouva endormis, car ils avaient les yeux lourds. Il ne savait que lui répondre. Il vient pour la troisième fois et leur dit
« Vous dormez encore, vous vous reposez. C'en est fait, l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'est approché. »
Aussitôt, comme il parle encore, survient Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné un signal. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Aussitôt arrivé, il s'approche de lui et lui dit
« Rabbi !»
Et il l'embrassa. Alors, ils mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus leur dit
« Vous êtes sortis pour vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme si j'étais un bandit. Tous les jours, j'étais parmi vous à enseigner dans le temple et vous n'êtes pas venus m'arrêter. Mais c'est pour que les Écritures soient accomplies. »
Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu.
Prions ensemble. Seigneur, nous avons les yeux lourds et notre vigilance est souvent fragile et de courte durée. Aide-nous à veiller sur ceux qui ont besoin de nous pour défendre leurs droits. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui demandent dans l'angoisse d'échapper à ce qui leur semble insurmontable. Aide-les à trouver le courage. Seigneur, nous te prions pour les jours où nous sommes tristes à mourir. Bénis chacun. Amen.
Thank you.
Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Tous les grands prêtres, les anciens et les scribes se réunissent. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, dans la cour. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Et ils n'en trouvaient pas, car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient pour porter contre lui ce faux témoignage. « Nous l'avons entendu dire. Je détruirai ce sanctuaire fabriqué par des mains humaines, et en 3 jours, j'en construirai un autre, qui ne sera pas fabriqué par des mains humaines. » Et même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors, le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et demanda à Jésus.
« Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi ?»
Il gardait le silence. Il ne répondit rien. Le grand prêtre lui demandait encore.
« Est-ce toi qui es le Christ, le Fils du béni ?»«
C'est moi. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec des nuées du ciel. »
Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit
« Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Qu'en pensez-vous ? »
Tous le condamnèrent, le déclarant passible de mort.
Je vous invite à prendre le cantique numéro 308 dans le recueil Louanges et Prières. J'invite l'Assemblée à se lever. Nous chanterons les 1, 2 et 3 de ce cantique.
Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, une des servantes du grand prêtre arrive. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarde et dit
« Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Nazaréen. »
Il le nia en disant
« Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire, toi. »
Puis, il sortit pour aller dans le vestibule. Alors, un coq chanta. La servante le vit et se remit à dire à ceux qui étaient là.
« C'est l'un d'entre eux. »
Lui, à nouveau le niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient encore à Pierre.
« Vraiment ? » Pardon. Vraiment, tu es de ces gens-là, car tu es aussi galiléen.
Alors, il se mit à jurer, sous peine d'anathème.
Je ne connais pas l'homme dont vous parlez.
Aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant qu'un coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié par trois fois. Alors, il se mit à pleurer.
Nous prions ensemble. Seigneur Jésus, comme tes disciples, nous sommes pleins de bonne volonté, mais nous ne savons ni prier ni veiller. Préserve-nous de te trahir ou de te renier, de te vendre ou de te rejeter, de t'abandonner ou de te crucifier à nouveau. Il n'y a pas une parcelle de nos souffrances que tu aies connue et transformée en espérance. Alors ouvre nos cœurs pour t'aimer en tous nos frères de route, en parcourant notre chemin, dans un esprit ouvert à toutes et à tous. Seigneur Jésus, que ce soir aussi, nous sentions ta présence souffrante mais aimante pour notre espérance. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 240, les strophes 1 et 2.
Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate lui demanda :
« Es-tu le roi des Juifs, toi ?»
Il lui répond :
« C'est toi qui le dis. »
Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate lui demandait encore :
« Tu ne réponds rien ? Vois tout ce dont il t'accuse. »
Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il réclamait. Un nommé Barabbas était en prison avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander qu'il agisse envers eux comme ils avaient coutume de le faire. Pilate leur répondit :
« Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?»
Car il savait que c'était par envie que les grands prêtres l'avaient livré. Mais les grands prêtres soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit :
« Que voulez-vous donc que je fasse ? de celui que vous appelez le roi des Juifs. Ils se remirent à crier.
Crucifie-le !
Quel mal a-t-il donc fait ?
Crucifie-le !
Pilate décida de satisfaire la foule. Il le relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, le prétoire, et ils appelèrent toute la cohorte. Ils l'habillent de pourpre et posent sur sa tête une couronne d'épines tressées. Puis, ils se mirent à le saluer. « Bonjour, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, lui crachaient dessus et fléchissaient les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Pour porter sa croix, il réquisitionne un passant qui vient de la campagne, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui s'est traduit par « lieu du crâne ». Ils voulurent lui donner du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Il le crucifie et se partage ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription, indiquant le motif de sa condamnation, portait ces mots. Le roi des Juifs. Avec lui, ils crucifièrent deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, en hochant la tête. Ils disaient
« Hé, toi qui détruis le sanctuaire et reconstruis en trois jours, sauve-toi à toi-même et descends de la croix. » Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient
« Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. »
Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi.
Nous chanterons le cantique qui s'intitule « Ô Jésus, ta croix domine », numéro 143, les strophes 1, 2 et 3.
À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. À la neuvième heure, Jésus cria « Eloi, Eloi, lema sabachthani ?» Ce qui se traduit par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent. Ils disaient « Tiens, il appelle Élie. » Quelqu'un courut remplir de vin aigre une éponge et la fixa à un roseau pour lui donner à boire, en disant « Laissez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais Jésus laissa échapper un grand cri et expira. Le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, le centurion qui était là, en face de lui, dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de José, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée. Et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir était déjà là, et comme c'était le jour de la préparation, la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, un membre honoré du conseil, qui attendait lui aussi le règne de Dieu, arriva. Il osa se rendre chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un drap, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa avec le drap et le mit dans un tombeau taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on l'avait mis.
Il est mort. C'est fini. C'est terminé. Enfin, pas tout à fait. Parce qu'il reste le corps, un corps mort, le corps d'un mort. Le corps d'un homme qui était vivant et qui ne l'est plus. Ce n'est pas rien. Alors il reste quelque chose à faire. La mort est affaire des vivants. Et cette affaire tient d'abord au corps mort. Les Romains ne s'embarrassaient pas beaucoup à ce sujet. Les cadavres des suppliciés restent suspendus au bois un certain temps. Et ensuite, ils sont abandonnés aux oiseaux, aux bêtes ou à la fosse commune. La condamnation à mort vaut aussi pour l'après de la mort. L'opprobre se prolonge dans l'absence de soins, de dignité, de respect, de sépulture. Sauf si la famille le réclame. Et si le pouvoir le permet. Le gouverneur romain d'une province éloignée dispose à ce sujet d'une latitude certaine, et Pilate n'est pas tout à fait persuadé que Jésus ait été coupable de quoi que ce soit. Dans le judaïsme, c'est autre chose. Le risque d'impureté prime. Alors l'ensevelissement est une nécessité impérieuse. Les cadavres des suppliciés sont ensevelis le jour même, selon la prescription du livre du Deutéronome. Même ceux qui sont morts de la mort des maudits, pendus au bois, sont mis dans une sépulture réservée aux condamnés. Ce n'est pas un ensevelissement honorable. Mais ils ne sont pas laissés à l'air. Il s'agit de préserver la terre et les vivants de l'impureté et de le faire rapidement, particulièrement la veille du sabbat, qui interdit de remettre la tâche au lendemain. Il faudrait attendre le jour d'après. C'est trop loin. Le commandement de l'ensevelissement des morts ne souffre pas de délai. Alors ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Il faut ensevelir le corps de Jésus. Mais les disciples sont partis. La famille est absente. Dieu n'est pas intervenu. Jésus a crié la douleur et l'incompréhension avant de crier à la fuite de la vie. Il est mort seul, abandonné, manque sur manque, vide sur vide. L'évangéliste Marc ne préserve rien ni personne devant la brutalité, la radicalité, la mort, la faim, le vide. Son récit est d'une sécheresse si nette qu'il est impossible d'y échapper, d'adoucir, de différer, de respirer autrement que dans ce rythme strict et aride. Il faut ensevelir le corps, mais ce n'est pas une tâche que peuvent accomplir les femmes qui le suivaient, qui le servaient et qui regardent de loin. Dans le vide ouvert par l'absence de la famille et des disciples, survient Joseph d'Arimathée, inconnu, inattendu, mais bien présent. Joseph d'Arimathée, c'est le Joseph de l'évangile de Marc, qui ne mentionne jamais d'époux à Marie, la mère de Jésus, seulement la mère, les frères, les sœurs. Joseph, ce Joseph, est un membre honoré du conseil, c'est-à-dire certainement un membre du Sanhédrin, ce Sanhédrin dont Marc a pourtant indiqué précédemment qu'il avait été unanime dans la condamnation de Jésus. Mais Joseph attendait le règne de Dieu, une expression qui le rapproche de la prédication de Jésus. Suffisamment pour nous donner à penser que peut-être un membre du Sanhédrin n'adhérait pas entièrement à l'accusation contre Jésus. L'évangéliste Luc, lui, le dira clairement dans son évangile. Mais avec Marc, questionner les apparences et les évidences est le chemin ouvert devant les lecteurs, les disciples, les croyants. Joseph, quelles que soient ses motivations, piété du judaïsme, peut-être foi en la parole de Jésus, Joseph ose demander à Pilate le corps du crucifié. Joseph prend ses responsabilités et il fait preuve de courage, même si, comme membre du Sanhédrin, l'accès à Pilate lui est certainement facile. C'est quand même Pilate qui a livré Jésus pour qu'il soit crucifié. C'était sa décision. Joseph demande le corps d'un mort qui était vivant, tout comme lui, Joseph est un corps vivant. Mais ce commun du corps est supérieur à la simple considération de la même espèce humaine. Ce commun est tissé d'histoire et de la foi d'Israël, d'une confiance et d'une espérance pareillement orientées vers le règne qui vient. Et il suffit d'un homme seul pour ne pas laisser le vide et l'absence prendre le dessus et pour y remettre de l'humanité et de la foi. Un homme seul, mais ce n'est pas dérisoire. Pilate, pour sa part, lui accorde non pas le corps, mais le cadavre. Et ce mot signale que Pilate donne la prééminence à la mort. C'était la condamnation à mort. Et pour le gouverneur romain, c'est le dernier mot. Seule la mort lui importe. Et donc, il faut vérifier que le mort est bien mort. Et le centurion qui le renseigne est celui qui a confessé que l'homme crucifié était vraiment fils de Dieu. Dans la brève enquête factuelle du gouverneur romain, une trouée, un débordement à travers l'écoute ou la lecture, Marc invite à discerner ce qui n'est pas visible dans les occupations, les préoccupations, les urgences, les rituels, l'ordinaire. Alors le récit se hâte. Il enchaîne les verbes, il faut faire vite avant le début du sabbat. Les aromates ne sont pas indispensables. Et puis Jésus n'avait-il pas déjà été oint d'un précieux parfum ? À Béthanie. Joseph part au plus pressé pour un ensevelissement honorable, mais sans raffinement. Il achète un drap, descend Jésus de la croix, l'enveloppe du drap, le met dans un tombeau taillé dans le roc et roule une pierre devant l'entrée du tombeau. Le minimum. Une écriture minimum pour une réalité minimum qui met d'autant plus en évidence l'absence des proches. Sauf Marie de Magdala et l'autre Marie qui observe tout cela avec attention. Parce que grâce à Joseph, le surlendemain se prépare pour elles. Elles sauront où aller. Ce que Joseph accomplit sous le regard des femmes, c'est ce que font les vivants après la mort pour que la mort soit un peu mise à distance, pour maintenir l'écart entre la mort et les vivants. Ensevelir le mort, c'est préparer un lieu pour le temps de la mémoire, ce que rappelle le mot grec tombeau sur la racine de mémoire. Ensevelir un mort, c'est aussi préparer un lieu dont le corps ne bougera pas, mais d'où les vivants pourront repartir. C'est préparer un lieu pour que les vivants continuent à vivre ailleurs que dans la mort, sous la mort. Un mort reste mort, le tombeau le signifie, et en cela il indique l'absence, il marque le manque. Ce manque qui ne cesse de trouer encore et encore les existences au fil des jours. Mais en même temps, lieu de souvenir, le tombeau rappelle ce que les vivants doivent à celui qui est mort, ce qui les constitue de leur relation passée avec lui, ce qu'ils ont reçu, qui a participé à la construction de leur être. Vivre ailleurs et vivre autrement que sous la mort. Éveiller et entretenir une gratitude, cette dimension profondément spirituelle est conjointe à la conscience de la réalité de la mort et du deuil, une réalité prise très au sérieux dans les Écritures. Peut-être Marie de Magdala et l'autre Marie pensent-elles au manque et au souvenir en regardant Joseph rouler une pierre devant l'entrée du tombeau. Il n'y a plus rien, mais il n'y a pas eu rien. Tous les souvenirs qu'elles apporteront le surlendemain au tombeau, tous les souvenirs qu'elles ont de Jésus sont autant liés au chagrin, au regret, à la déception peut-être, qu'à leur réalité de femme vivante. Alors peut-être que ce n'est pas fini, peut-être que ce n'est pas terminé. Il se peut que le souvenir ne soit pas une chape qui écrase, mais une dynamique pour le présent. Il se peut que la fidélité aux morts ne soit pas la conservation immuable et obstinée du passé, mais le terreau d'un nouveau. Alors il est bon qu'elles soient deux, ces femmes, celles qui ne sont pas parties, celles qui observent, celles qui savent déjà qu'elles reviendront le surlendemain. Cela est bon, car devant un tombeau, devant l'absence, le manque de celui qui est mort, une alliance entre les vivants peut se nouer, entre vivants manquants, incomplets, conscients de leur finitude, ces vivants qui parfois se demandent pourquoi Dieu les a abandonnés, ces vivants que frôle parfois cette solitude qui est le sentiment de ne plus compter pour personne. Ou de compter pour rien. Mettre le corps au tombeau, c'est assumer que cette mort est irréparable. Il n'y aura pas de nouvelle naissance. Le corps retournera à la poussière. Il n'y aura pas de reprise comme pour la fille de Jaïrus, comme pour Lazare, comme pour le fils de la veuve de Naïn. Seulement, il y a un homme. Sa piété, sa bonté, son courage, ce qu'il fait. Il y a deux femmes, leur persévérance, leur fidélité, leur attente. Eux trois préparent le surlendemain du jour de la mort. Un surlendemain dont ils ne peuvent imaginer qu'il sera autrement que coulé dans le rite, baigné de chagrin, de larmes, oscillant entre désespoir et regret, entre reconnaissance envers le mort et acquiescement au manque. Eux trois font signe, signe de la limite entre la vie et la mort, signe que la vie peut continuer comme vie des vivants. Avant le surlendemain, avant le tombeau vide, il y a le tombeau plein. Avec un corps mort, mais aussi le manque, l'absence, ce qui a disparu. Ce tombeau est un lieu véritable dans nos existences. Et il se peut même qu'il y en ait plusieurs. Et Marc invite à les reconnaître, afin que pour chacun de nous, il puisse y avoir un surlendemain. Amen.
Je vous invite à chanter le cantique 289, les strophes 1, 2 et 3, et je vous invite à vous lever. Prenez place. Alors, deux annonces à faire. La première, c'est que nous nous retrouvons dimanche à 10h30 pour le culte de Pâques, célébré ici même à l'oratoire. La deuxième annonce, c'est que tout à l'heure, nous sortirons en silence, autant que faire se peut, pour clôturer ce Vendredi Saint. Nous avons prévu aussi un moment d'offrande pour continuer de faire vivre notre Église. Eh bien, votre participation sera la bienvenue à hauteur de ce que vous pouvez et selon votre cœur.
Avant de prononcer, de recevoir la bénédiction, je voudrais que nous ayons une pensée particulière pour les jeunes qui ont lu ce soir et ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce soir, mais qui seront dans leur baptême ou leur confirmation à la Pentecôte, et que cette bénédiction leur soit particulièrement adressée. Merci.
Nous vous invitons à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.